Le design ops, c'est finalement la discipline qui va viser à rassembler les équipes pour mieux les faire travailler ensemble, avec donc les bons outils, les bonnes méthodes, la bonne organisation, les bons process.
La démarche design ops émerge en 2017 à travers plusieurs articles publiés sur Internet. Adrienne Cleave, chez Airbnb, fait naître la démarche d'un besoin d'aligner les équipes dans une organisation à l'échelle à la suite de la conception du DLS, leur Design Language System. David Malouf, expert américain du sujet, participe en novembre 2017 au Design Ops Summit, un événement qui ambitionne d'aider à définir le terme de design opération. Enfin, en 2018, InVision publie son Design Ops Handbook. Ces trois moments racontent la naissance de cette démarche, avec une seule ambition, aider les équipes design à grandir et à gagner en maturité. Airbnb déclare aujourd'hui s'appuyer sur 5 équipes différentes. Ces équipes sont spécialisées. Management, outils, localisation internationale, production, coordination. Ce sont sur ces spécialités que reposent leur vision et leur démarche. Afin de comprendre cette équation, nous avons invité Émilie Larose, Johanna Rocalvi et Valentin Serry. Nos invités, avec leurs témoignages, vont partager leur définition de cette pratique et la façon dont elles et ils l'implémentent dans leurs équipes au quotidien. Dans le premier chapitre, nous cherchons à retracer l'histoire et à définir cette démarche. Pendant le second chapitre, vous allez découvrir les témoignages de nos invités autour des projets qu'elles et ils ont portés. En conclusion, lors du troisième chapitre, nous posons la question de la maturité actuelle. Et plus important, quel futur pour ces pratiques ? Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Vous souhaitez aller plus loin ? En vous abonnant à notre newsletter, vous allez recevoir une liste de livres, ressources et des bonus. Rendez-vous sur notre site internet. Chapitre 1. Qu'est-ce que Design Ops ? Nous avons posé cette question à nos invités afin de mieux comprendre cette pratique encore récente. Émilie nous donne une première définition du terme et des pratiques Design Ops. Elle nous explique les liens et inspirations entre DevOps, un mouvement apparu en 2007, et Design Ops.
Je suis Émilie Larose et je suis Head of Design Research et Design Ops chez e-Voyageur SNCF. Et en deux mots, e-Voyageur SNCF, c'est la filiale de SNCF, Voyageur, qui rassemble le digital client. Donc en France, ça veut dire qu'on gère oui SNCF pour la mobilité plutôt longue distance et l'assistant SNCF pour la mobilité du quotidien. J'ai évolué principalement dans le monde des agences avant de rentrer chez l'annonceur avec des agences très diverses, donc où j'ai notamment travaillé quelques années chez Napoleon Agency. Et puis plus récemment, une expérience qui est peu usuel dans le monde du design et de l'UX, dans une agence de pub. Donc j'ai travaillé chez Marcel en tant que Head of UX, donc Marcel qui est une agence du groupe Publicis. Design Ops, c'est la contraction de deux mots, que sont design et opération. Et donc, il faut entendre le mot opération au sens processus, méthode et outils. Et donc le design ops, c'est finalement la discipline qui va viser à rassembler les équipes pour mieux les faire travailler ensemble, avec donc les bons outils, les bonnes méthodes, la bonne organisation, les bons process. Et plus qu'une méthode, c'est aussi, je pense, une philosophie. Une philosophie qui vise à communiquer efficacement, à collaborer, automatiser aussi des méthodes de travail. Donc si on le résume, finalement, c'est professionnaliser le design et en tirer des résultats qu'on peut quantifier, qu'on peut mesurer. Je pense par exemple à l'optimisation du temps de travail, tout simplement. Et puis, c'est pas une démarche qui va s'arrêter au projet, mais qui s'étend aussi, selon moi, à tous les spectres du travail. Ça touche aussi au bien-être, à la motivation. Et puis, ça s'opère finalement à toutes les échelles. Et parfois, d'ailleurs, on en fait sans s'en rendre compte, sans forcément l'assimiler à du design ops. Mais quand on crée une nomenclature commune pour des fichiers Figma ou Miro, par exemple, c'est déjà une démarche de design ops. Déjà, ça puise un petit peu en tout cas dans le terme et dans la méthode, dans le mouvement DevOps, qui est finalement l'équivalent pour l'ingénierie technique. Et donc ça, c'est une notion qui apparaît un peu avant 2010, donc avec des notions d'agilité. Ça vise en fait à gérer et administrer des systèmes informatiques, le but étant que ces systèmes soient bien adaptés à l'entreprise et la fassent gagner en agilité, en vélocité, etc. Et donc le terme DesignOps, il apparaît un petit peu plus tard, il apparaît autour de 2015, et il est démocratisé quelques années plus tard, donc il n'y a pas si longtemps que ça finalement, notamment avec la sortie de livres blancs, d'articles, de publications sur le sujet. Mais en réalité, l'organisation, la structuration des équipes, l'industrialisation des process, ce sont des pratiques qui existent depuis bien plus longtemps et qu'on a toujours fait, sans forcément, encore une fois, y adosser le terme « DesignOps », et sans identifier qu'il s'agissait d'une démarche spécifique, sans le formaliser et sans l'officialiser, mais ça existait déjà. Et puis aujourd'hui, ça commence à se démocratiser, on commence à lire des cases sur le sujet. Alors, principalement, ça touche des entreprises américaines, hein, ce qu'on peut lire, mais la pratique, elle s'installe en France, et on le voit notamment dans les grandes entreprises, où on a déjà des équipes de design qui sont déjà en place. La pratique, elle arrive, je pense, en réponse directe à des organisations qui sont toujours plus complexes, avec beaucoup de designers, beaucoup d'interactions aussi avec d'autres métiers. Et puis ça répond aussi assez directement à des projets à grande ampleur. C'est tout à fait possible de le mettre en place sur une équipe réduite, y compris un indépendant qui travaillerait tout seul. C'est une façon aussi de mieux organiser son travail, de prendre du recul sur ses actions et de gagner en compétences, y compris sur nous-mêmes. Et cette pratique, elle permet de gagner en efficacité. Alors, assez simplement, ça permet très directement de travailler dans de meilleures conditions, avec des process plus clairs, un cadre aussi plus délimité. Donc, par exemple, avoir les bons outils, ceux qui vont me permettre d'effectuer mes tâches facilement et ceux qui sont les plus performants du marché.
De son côté, Johanna nous explique qu'elle a l'impression de faire du design ops depuis 2009. Elle considère que c'est une partie intégrante de son travail de lead.
Je m'appelle Johanna, je suis diplômée de l'école Strat, école de design depuis 2009. Et depuis, j'ai fait 7 ans de conseil dans différentes boîtes de consulting en UX design. Et puis 3 grands groupes, j'ai été chez Nissan en tant que design lead pour l'Europe. Dans le groupe Tarket en tant que Head of User Experience Monde. Et maintenant, je suis chez Blizzard Entertainment depuis 3 ans à la tête de l'équipe de production créative, donc avec des designers, des illustrateurs, des photographes et des chefs de projet coordinateurs. J'ai l'impression d'avoir toujours fait pas tous les éléments de design ops, mais c'est quelque chose qu'en tant que design lead depuis 2009, j'ai fait par petites briques. Je pense que c'est aussi quelque chose qui a été, de mon point de vue, explicité et nommé depuis pas très longtemps. Même si c'est une pratique qui est courante comme au même titre que le design thinking, c'est quelque chose qui semble être... on a mis un nom dessus depuis pas très longtemps. Et pour moi, c'est une pratique qui tourne autour du reporting, de la gouvernance, de la créativité, de l'optimisation, de la réduction de la pénibilité et du co-développement. Pour moi, principalement, ça répond aux besoins de maintien et développement de l'activité design, ainsi que la rétention des talents. Je dirais, si je prends des gros sujets, ça serait ça, maintien de développement de l'activité design et rétention des talents, et surtout rendre du coup nos équipes attractives pour les designers talentueux, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a vraiment une fuite des talents, pas que dans le design, hein, dans tous les métiers, dans les entreprises, et le fait de rendre une équipe attractive grâce au design ops, je pense que c'est pour moi un des besoins auxquels ça répond. Et les avantages de faire du design ops, de répondre aux besoins, ce que tu me disais là, de répondre aux besoins, clairement, dont on a parlé précédemment, et pour être très, très terre à terre, surtout de pouvoir officialiser et intégrer les tâches qui sont réalisées dans le cadre de design ops dans des fiches de poste, tout simplement, que ce soit pas quelque chose qu'on fait en plus, qu'on essaye de mettre entre quand dès qu'on a du temps libre ou quoi, mais que ça devienne vraiment partie d'une fiche de poste et faisant partie de l'évaluation des équipes, que les personnes soient dédiées ou non.
Une démarche design scalable. C'est ainsi que Valentin résume la démarche Design Ops, avec pour but de faciliter le travail des équipes design avec les parties prenantes, fluidifier les interactions et réduire les frictions.
Je m'appelle Valentin Séry, je suis Design Ops au sein de l'agence Monsieur Guise depuis 2017. Alors nous, on est une agence de conseil en product management composée d'une quarantaine de personnes. Je suis actuellement en mission au sein du design studio NG Digital depuis bientôt un an et demi. Et précédemment, j'ai passé 2 ans chez AXA France où j'accompagnais la Digital Factory ainsi que la Content Factory. Donc moi, j'ai une formation initiale de développeur durant laquelle j'ai découvert que ce qui me stimulait réellement, c'était le design. Je me suis auto-formé aux différentes disciplines du design et été designer durant une dizaine d'années. J'ai commencé en agence où j'ai essentiellement évolué dans le secteur musical. J'ai également été freelance. Je faisais du print, du web, du motion et également beaucoup de flash et d'action script pour lesquels j'avais une appétence particulière. Plus tard, j'ai intégré une société d'e-learning pour laquelle je faisais un peu de vidéo, mais essentiellement du flash et de l'action script. Puis l'iPhone est arrivé et a tué Flash. J'ai voulu redonner un nouvel élan à ma carrière et je suis retourné en cours. J'ai obtenu un master en marketing et management commercial qui a cultivé mon goût pour l'analyse, les courbes, les metrics et le management. Ensuite, ce sont les hasards de la vie et les rencontres qui m'ont emmené chez Monsieur Guise, où mon parcours de designer doublé de mes compétences managériales est en adéquation avec ce qu'on allait bientôt appeler le design ops. Alors, en pratique et dans les grandes lignes, design ops, ça consiste à développer la démarche design et à diffuser, certains diront évangéliser, sa culture au sein de l'organisation. Il s'agit également de faciliter le travail des designers et des parties prenantes, casser les silos, fluidifier les interactions et réduire les frictions. Au quotidien, on implémente, on mesure, on optimise et on standardise des process qui visent à optimiser la qualité tout en réduisant le temps de traitement. En synthèse, le design ops va chercher à ce que le collectif atteigne une efficience maximale, une excellence opérationnelle en vue de ce qu'on appelle chez Monsieur Guise une DDS, une démarche design scalable. Dans les grandes lignes, on commence à en parler en 2017-2018. On trouve des occurrences en 2015, mais c'est vraiment embryonnaire. Donc vraiment, comme je le disais, c'est essentiellement 2017-2018 où on a Adrian Cleave, le directeur du design ops chez Airbnb, qui commence à mettre en place une démarche design ops parce qu'il se retrouve au sein d'une équipe design qui a triplé et qu'il a besoin de rationaliser le travail et d'optimiser les process. On a également Dev Malouf, qui est un consultant et conférencier design qui a vraiment démocratisé cette notion de design ops. On trouve beaucoup d'articles et de conférences de sa part. Et puis également, il y a eu le Design Ops Handbook de InVision, qui est sorti courant 2018, qui a vraiment contribué à fortement démocratiser la démarche design ops.
Chapitre 2. Design et opération. L'équation à l'épreuve de la pratique. Avec nos 3 invités, nous explorons des projets concrets autour de la pratique Design Ops. Dans les organisations, quelles sont les structures mises en place dans les équipes? Quels projets illustrent les pratiques Design Ops? La réponse de nos invités apporte la lumière sur ces points.
Alors, chez Voyageur, on a une direction qui s'appelle la direction Produit Tech. Et au sein de cette direction, on a la CX, donc CX Customer Experience, qui rassemble différentes expertises, donc des product designers, des UX researchers, des CRO, des personnes qui travaillent la qualité expérientielle. Mais au-delà de notre direction, on est en interaction quotidienne avec différents métiers. Et une direction comme la nôtre, de notre taille, avec des expertises différentes finalement, ça nécessite à notre échelle déjà de mettre en place des pratiques pour mieux travailler ensemble. Et dans cette direction, donc qui représente une quarantaine de personnes, il y a une collaboratrice qui est chargée de design ops et qui y consacre 100% de son temps. Donc c'est une personne qui va piloter les différents projets qui sont mis en place dans ce cadre-là. Et parmi les collaborateurs, donc parmi les designers qui constituent la direction, il y en a un certain nombre qui sont porteurs, voilà, on les appelle les porteurs, de certains sujets design ops qui vont accompagner la démarche plus en grand. Aujourd'hui, on a différents studios de design qui travaillent chacun sur des services spécifiques qu'on peut proposer et qui sont, pour le coup, en interaction avec d'autres métiers. Et puis après, on a des équipes plutôt transverses qui ne vont pas forcément travailler directement sur un produit, mais des équipes comme la mienne qui vont travailler justement l'expérience de façon plus transverse pour garantir aussi l'homogénéité dans le travail qu'on peut faire. Je voulais déjà parler avant tout de la démarche et de concrètement comment on a déterminé finalement l'ensemble des actions DesignOps qui constituent la roadmap qu'on a chaque année, avec des objectifs clairs à atteindre, des KPI clés pour chacun. En fait, ces actions-là, elles ne sont pas sorties du chapeau, mais elles ont été définies sur la base de plusieurs intrants. D'abord, on avait des sujets de fond, qui sont des axes stratégiques qu'on a identifiés il y a plus d'un an, qui existaient déjà avant même que j'arrive au sein d'e-voyageurs. Et puis ensuite, on s'est basé sur des ateliers qu'on a fait en interne avec les différents managers pour identifier les problématiques qui étaient vécues au quotidien par les collaborateurs. Par exemple, il en est ressorti de cet atelier qu'on passe beaucoup, trop d'ailleurs, de temps en réunion au détriment du temps passé à produire, à designer, à réfléchir. Et ça, c'est un problème. Et c'est un problème auquel le DesignOps peut potentiellement répondre. Et puis, enfin, troisième entrant sur lequel on s'est basé, on a la chance d'être accompagné tous les ans par un cabinet de conseil qui accompagne nos équipes RH et qui mène une enquête annuelle, une enquête qui est standardisée et qui est tout à fait reconnue. Et c'est une enquête qui consiste à faire une sorte de photographie de l'expérience collaborateur au sein de notre organisation et qui permet de comprendre comment nos pratiques, elles sont vécues pour nous permettre d'ajuster notre stratégie collaborateur, managérial, etc. Et donc, cette enquête, c'est pas simplement nous donner un label de qualité, c'est aussi un bon moyen, finalement, de nous améliorer au quotidien en pointant du doigt les éléments à travailler sur les aspects plutôt pratiques. Et forcément, on s'est servi des résultats de cette enquête-là pour aussi construire notre roadmap, OPS, de cette année. Donc, voilà, si je résume, trois entrants, et de ce travail d'identification, on est ressorti différentes actions. On a exactement 11 chantiers qu'on va adresser sur 2021. Et ces 11 chantiers, on les a regroupés dans trois grandes dimensions. On a un premier axe qui sont plutôt des actions très opérationnelles, donc qui vont toucher aux outils, aux process de travail, aussi au monitoring et suivi des projets, des produits et des mesures de la qualité expérientielle de ce qui est délivré. Donc ça, c'est un axe qui est très rationnel, qui est très quantifiable finalement. Ensuite, on a un deuxième axe qu'on a appelé soutien au studio ou soutien au designer. Ça, c'est un axe dans lequel on va aborder plutôt des sujets de coordination, de comment on peut alimenter en nouvelles méthodologies de travail, comment est-ce qu'on va faciliter aussi la productivité. Et donc, le temps alloué à la réflexion et au design en tant que tel. Donc ça, c'est plutôt un axe qui va aider et venir en support pour organiser l'activité des designers. Et donc, le troisième axe qui va plutôt toucher à la culture design, dans lequel on va adresser des sujets comme la formation, le rayonnement, comment on va les nourrir en culture, en veille, on va partager notre savoir les uns et les autres. Donc ça, c'est un axe qui est très important dans notre pratique, mais qui est plutôt rattaché à de la vision qu'on peut plus difficilement quantifier, en tout cas au niveau de l'apport.
Avec deux exemples concrets, Émilie nous parle des démarches liées à leur organisation. Elle nous partage comment l'équipe va définir et évaluer ses compétences, ainsi que l'importance de la pédagogie dans cette démarche.
On a un sujet qui s'appelle upskilling. Alors, l'upskilling, c'est quoi ? C'est l'acquisition de compétences en entreprise. Donc, c'est ce qui répond aussi directement à l'évolution de nos métiers. Alors, c'est arrivé chez e-voyageurs dans un contexte de mutation de notre métier. On est passé d'une organisation avec une distinction entre les UX designers et les UI pour muter vers un métier unique de product designer. Et upskilling, c'est en fait un levier, finalement, qui va nous permettre de répondre à deux enjeux recruter de façon pertinente des nouveaux collaborateurs au sein de notre entreprise et puis former les designers de façon efficace. La démarche upskilling chez nous, ça a d'abord été un travail pour identifier les compétences que recouvre le métier de product designer. Donc sur la base d'ateliers de travail, on a identifié toutes les compétences et toutes les sous-compétences du métier. Alors, ça représente énormément de compétences, hein, évidemment, et personne n'est en mesure de maîtriser tout le spectre de ces compétences. Une fois qu'on a identifié toutes ces compétences-là, on a construit ce qu'on appelle une matrice de compétences. Et la suite du travail, ça a été de demander aux collaborateurs de s'auto-évaluer. Alors déjà, quand on parle d'évaluation ou d'auto-évaluation, je crois qu'il y a un aspect qui est vraiment très important. Il y a un sujet autour un sujet très pédagogique qu'il faut rassurer aussi sur le fait que cette démarche, elle ne vise pas à fliquer les gens ou à identifier des lacunes pour pouvoir éventuellement les virer ou les remplacer. Loin de là, c'est un moyen pour les faire évoluer et les faire progresser. Donc, un gros enjeu pédagogique. Et donc, on leur a demandé de s'auto-évaluer. Et pour chaque compétence, on leur a demandé de se positionner sur une échelle allant de 0 à 5. Donc, 0 étant « je ne maîtrise pas du tout cette compétence, mais j'aimerais apprendre ». Et 5, « je suis un expert absolu, en totale maîtrise, et même je suis capable d'enseigner cette compétence ». Et puis, les collaborateurs, ils avaient aussi la possibilité de se positionner en neutre ou en non pertinent s'ils jugeaient que la compétence qu'on était en train d'explorer, elle n'était pas maîtrisée peu pertinente finalement pour leur activité. Ça, c'était tout à fait possible aussi. Donc, concrètement, c'est une enquête qui est envoyée par mail. Et donc, une fois l'auto-évaluation effectuée, on leur a demandé d'effectuer la même chose en se projetant à 6 mois pour évaluer aussi toutes les dimensions sur lesquelles ils avaient envie de progresser. Et donc, la suite du chantier, et ça, c'est quelque chose qu'on est en plein dedans en ce moment, c'est un vrai travail d'analyse de tous les résultats pour en extraire d'un côté la vue très macro et donc avoir une vue assez globale finalement du niveau de la direction. Par exemple, si on identifie que sur les aspects analyser les données comportementales, on serait assez bas en notation et on serait un petit peu en carence au sein de l'équipe au global, ben on sait qu'on va privilégier le recrutement d'une personne qui maîtrise ses compétences à l'avenir. Donc d'un côté, cette vue très macro et très globale sur toutes les équipes, et puis d'un côté, une analyse très micro et très fine pour identifier aussi, par exemple, des pairings de formation ou de mentorat pour qu'on puisse se former les uns les autres et former directement une personne sur une compétence clé, et voire même, dans certains cas, mettre en lumière des plans de carrière. J'ai hâte de faire un bond dans 5 ou 10 ans pour lire plus de cases d'entreprises qui racontent un petit peu la pratique au sein de leur organisation et puis avoir plus de littérature disponible pour rendre cette démarche plus professionnelle. Même après avoir expliqué la démarche et pour quelles raisons on fait ça, on a été confronté à des gens qui n'osaient pas répondre et voilà, on a dû rassurer aussi sur le fait que ça n'était pas utilisé à leur encontre. Tout le monde ne pouvait pas maîtriser toutes les compétences qui étaient listées. C'est impossible, même le plus fort des designers ne peut pas tout maîtriser. Et c'était même encore plus difficile pour un senior qui, a priori, avait un peu peur de dire qu'il n'était pas en maîtrise sur l'une des sous-compétences, alors qu'en réalité, c'est fait pour soi, finalement, pour progresser et évoluer.
Avec son équipe, elle a également abordé un autre point de douleur, le ratio temps passé en réunion vs temps de production.
Alors, ça me tient à cœur et on le sait tous, hein, la réunion, c'est le fléau du monde de l'entreprise. Et on entend souvent des gens qui se plaignent et qui sont victimes de réunionnite. Chez e-voyageurs, on estime le temps passé en réunion, c'est certaines semaines, 65% du temps passé en réunion. Donc ça laisse 35% aux designers finalement pour produire, pour prendre du recul, pour réfléchir, pour s'inspirer. Donc face à ce constat, on a pour ambition et pour objectif d'inverser le ratio. Cet enjeu, donc ça constitue clairement un chantier design ops à part entière. Donc la première phase dans ce chantier-là, ça a été de poser le diagnostic. Donc on a audité les pratiques, hein, donc concrètement, on a recensé toutes les réunions qui existent. Et puis, pendant un mois, on a fait du shadowing pour observer un petit peu comment ça s'articule, comment les gens interagissent les uns avec les autres. Et puis, en parallèle, elle a diffusé une enquête pour que chaque designer puisse lister le nombre de réunions auxquelles ils assistent et pour chacune qu'ils estiment l'utilité et l'intérêt d'y assister. Parce que c'est important de savoir qu'il y a beaucoup de réunions et on pourra juste lister, mais c'est aussi bien de savoir à quel point elles sont utiles ou pas et à quel point elles ont de l'impact dans notre travail. Et donc, sur la base de ce constat, l'idée, ça sera d'identifier des actions clés qu'on va pouvoir mettre en place. Alors, ça peut toucher à la planification des réunions, à leur organisation. Bref, en tout cas, l'idée, c'est d'identifier toutes les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place. Et puis, une fois qu'on a identifié ces bonnes pratiques-là, l'idée, ça sera de tester ces premières pistes sur une équipe réduite, puis ajuster ces actions clés et puis les généraliser à l'ensemble de la direction. Et donc, l'enjeu, c'est de réitérer cette enquête d'ici quelques semaines pour s'assurer, et on l'espère vraiment, je l'espère de tout cœur, que le temps passé en réunion aura bien diminué.
Valentin, de son côté, nous présente comment les grandes entreprises, Engie Digital par exemple, vont s'approprier cette démarche. Comment elles en comprennent les grandes lignes? Il partage un projet de conception d'un workflow commun permettant d'organiser efficacement les deliveries.
Quelques éléments de contexte pour introduire mon propos. Donc, Engie Digital, il faut savoir que c'est l'éditeur de logiciels du groupe Engie. Alors, on délivre des produits à destination du groupe, des collectivités, des entreprises et des particuliers. Alors, nous, on est structuré sous une forme de modèle hybride. Nous sommes regroupés au sein d'un design studio, mais les ressources sont affiliées à une ou plusieurs plateformes. Alors, actuellement, on est 21. On a souvent régulièrement des renforts de prestataires qui poussent parfois les effectifs à une trentaine de personnes. Au niveau de la composition de l'équipe, donc actuellement, on a 6 service designers, 6 interaction designers, 4 développeurs front, un product owner qui est dédié au design system, on a une lead évangéliste qui est appuyée par un chargé de communication, il y a donc un design ops, et tout ça est chapeauté par le head of design. On travaille sur une douzaine de plateformes. Alors, chacune de ces plateformes a plusieurs verticales. On est sur des sujets assez pointus. Et on a également des produits annexes, transverses, qui sont regroupés autour du site Engie Design, sur lequel je vous invite à aller faire un tour à l'occasion. On a une méthode service design at Engie. On a l'expérience index qui permet de jauger le niveau de centricité utilisateur des plateformes et de ses membres. Et puis, on retrouve également le design system, notre design system qu'on appelle Fluid, qui lui est drivé par une core team qui est renforcée par le reste de l'équipe au fil des évolutions et de l'implémentation des composants spécifiques à tel ou tel use case. Concernant le design ops au sein des entreprises du CAC 40, donc c'est les sociétés où j'évolue essentiellement, je pense qu'elles connaissent les grandes lignes de la démarche. Donc, il s'agit de les acculturer, de leur présenter la démarche un petit peu plus en profondeur, je dirais. Mais la meilleure approche, selon moi, c'est de faire le parallèle avec le Scrum Master, parce que le Scrum Master au sein des grands comptes, alors c'est quelque chose qui a été éprouvé et ils ont déjà un recul sur l'apport que les Scrum Masters ont représenté pour leurs entités. Donc, tu peux rapidement faire le parallèle entre le travail d'un Scrum Master et le travail d'un Design Ops. Ça aide les gens à comprendre l'apport et à être prêt à investir de l'argent sur une personne qui ne produit pas directement, mais qui met un peu d'huile dans la mécanique, quoi, je dirais. Un exemple concret de ce que j'ai pu mettre en place, de ce qu'on a pu mettre en place, c'est l'implémentation d'un pipe de demande et d'un workflow commun à toutes les plateformes. Alors, ça repose sur un Confluence pour standardiser, centraliser et historiser les expressions de besoin. Un Jira pour monitorer l'activité. Alors pour moi, Confluence, Jira, tout du moins la notion de pipe et de workflow, c'est la pierre angulaire de la démarche design ops. Parce que tu auras beau muscler ton discovery, si tu n'arrives pas à délivrer rapidement avec un bon niveau de qualité, le business va en pâtir. On commence donc par organiser le delivery. Alors le pipe va nous permettre de monitorer et donc de piloter l'activité, d'identifier où sont nos forces et nos faiblesses sur le workflow et agir en conséquence. Ça va également nous permettre de connaître nos vélocités, notre débit, de disposer d'une prédictibilité et d'allouer des ressources en fonction de la charge. Au niveau des obstacles ou difficultés qu'on a pu rencontrer dans cette démarche, alors tout d'abord, il a fallu obtenir le buy-in des designers. Jira, c'est un outil de développeur dans l'esprit des gens. Et les designers n'ont clairement pas d'appétence pour Jira. Il faut reconnaître que l'UX est clairement optimisable. Il a donc fallu expliquer aux designers quel était l'apport pour eux. Donc très clairement, c'est gagner en confort de travail. Là encore, il a fallu expliquer l'apport pour le collectif. L'apport est clair, hein, c'est créer une véritable émulation et une continuité entre le produit, le design et l'IT. Au niveau des résultats qu'on a obtenus avec l'implémentation de ce pipe, clairement, c'est que le travail des designers est plus confortable. Nous, on est en mesure d'avoir un pilotage fin, d'allouer les ressources en fonction des besoins. On a la possibilité de localiser et d'analyser les irritants pour les lever. Par exemple, si tu as des boucles de retour trop conséquentes, bah, tu cherches à comprendre d'où ça vient. On peut également répliquer les bonnes pratiques. Alors, par exemple, on a testé il y a quelques temps le passage en sprint pour les équipes design. Donc, je parle pas de design sprint, hein, je parle vraiment de sprint au sens agile. Et ce que j'ai pu mesurer, c'est que grâce au passage en sprint sur les plateformes qu'on a testées, on a réduit le cycle time de 62,5%, ce qui est quand même énorme. Et donc, en bout de chaîne, on a clairement réduit le time to market. Sinon, d'autres exemples de choses qu'on a pu mettre en place, c'est sanctuariser des créneaux communs pour les occurrences dédiées au design studio. Typiquement, maintenant, on a des occurrences régulières pour faire des deep dives, des design critiques. On a également toutes les deux semaines ce qu'on appelle le Friday Studio, où on va faire de la co-création, du partage et de la montée en compétences. Alors que quelques réussites, et clairement, comme je l'ai détaillé précédemment, la mise en place d'un pipe et d'un workflow, c'est clairement une réussite parce que on a 12 plateformes, donc avec chacune des plateformes a ses spécificités, des process qui lui sont propres. Ça fait beaucoup de personnes à convaincre et embarquer. Le fait de sanctuariser les créneaux communs pour l'équipe nous a permis d'avoir une homogénéité des pratiques, un partage de connaissances qui nous enrichit tous. Donc ça, ce sont clairement des exemples de réussite côté design ops. Et puis un gros travail en cours sur la practice qu'on drive en binôme avec la lead évangéliste.
Enfin, Johanna nous explique le fonctionnement des équipes chez Blizzard et les enjeux associés. Le reporting, les outils à mettre en place, le maintien de la créativité ou la gestion des budgets.
Je vais juste redire que du coup, ce que je dis aujourd'hui, c'est mon avis personnel et ça n'engage en rien l'entreprise. Donc au niveau de la structuration, il y a un truc qui est intéressant à savoir par rapport à Blizzard, c'est qu'il y a des équipes qui sont spécifiques à un jeu, donc ce qu'on appelle une franchise, et qui vont donc soit travailler sur le développement du jeu ou soit travailler sur un site internet spécifique, un site web spécifique pour une franchise. Et nous, en fait, en France, donc moi je suis head of design pour l'Europe et je vais être dans mon équipe. On va avoir en termes de production un scope qui est beaucoup plus large. Donc c'est l'ensemble des franchises des jeux. Et nous, on ne touche pas au jeu lui-même ni au site web officiel principal, mais on va faire tout ce qui vient soutenir les jeux, la sortie des jeux ou les annonces, etc. Donc on va avoir à la fois des créations d'initiatives qui vont être... qui vont nécessiter du product design avec des sites web, des applications pour de l'événementiel. On peut avoir des choses beaucoup moins créatives et palpitantes. Et je vais remonter d'un cran avant de parler de mon équipe. Je vais parler de la structuration au niveau global. Chez Blizzard Entertainment, en fait, il y a des centaines de designers qui sont répartis dans toute l'entreprise et dans le monde entier. Par contre, les points qui se font ressentir de manière identique, peu importe les équipes, j'ai essayé de les lister. On a le premier, le plus important, c'est le reporting et la valorisation du travail par la donnée. On a le développement d'outils pour l'optimisation de la production et la réduction de la pénibilité de certaines tâches. Je pense entre autres à des design systems, mais aussi des plugins Photoshop, de développement de CMS et de ce genre de choses qu'on peut faire pour à la fois être plus performant, mais aussi réduire la pénibilité de certaines tâches qui ne sont pas du tout créatives. Il y a d'autres choses comme le maintien et le développement de la créativité dans des conditions qui sont parfois très production. Encore une fois, selon les équipes, on a des équipes qui sont très orientées prod et qui doivent produire très vite. On a aussi, en discutant avec l'autre équipe de design, on s'est rendu compte que les liens cross-équipe de design pour le partage de connaissances étaient cruciaux. Et on a un autre besoin qui sont les sessions de feedback inter- et intra-équipe. Et ça, pareil, c'est des choses qu'on retrouve, de mon point de vue, dans l'ensemble des équipes de design chez Blizzard, mais aussi ailleurs dans les expériences que j'ai pu avoir par le passé. Et le dernier, c'est la capacité de naviguer dans l'entreprise et décrocher les budgets qui sont spécifiques au développement de la créativité. Donc, par exemple, des sorties au musée, des expos, des achats d'outils informatiques, du matériel non habituel, toutes ces choses qui sont pas, il n'y a pas de façon simple d'aller chercher ces budgets et d'acheter. Et donc, pour moi, la capacité de naviguer aussi dans l'entreprise, d'aller décrocher ces budgets, elle est clé. Et ensuite, dans mon équipe, on est deux FTE, qu'on appelle pour full-time equivalent, sur 10 à travailler sur les 6 points que j'ai cités juste précédemment. Donc, en gros, on est deux à plein temps, mais l'idée, c'est de dire que c'est deux, c'est pas deux vraies personnes réelles, c'est deux personnes étalées sur les 10 personnes. On a une personne qui est en charge des sessions d'échange avec les équipes de design dans les autres régions et les sessions de feedback. Donc, c'est quelqu'un qui va contacter les équipes équivalentes aux États-Unis, qui va organiser des points, qui va ensuite créer des sessions de feedback où on peut se parler, partager nos productions et avoir des échanges constructifs pour améliorer la qualité et rendre aussi les projets plus cohérents tout en gardant un bon niveau de créativité. On a une autre personne qui est plus dédiée sur le développement d'outils, de plugins et tout ça, tout ce qui va aider à la performance d'équipe et à réduire encore une fois la pénibilité de certaines tâches. Et de mon côté, moi après, côté design lead, on va dire, j'ai plus la vision globale et stratégique, mais je me penche particulièrement sur comment on s'inscrit dans l'évolution du fonctionnement global des équipes de design au sein de la structure. Voilà, je m'occupe aussi de l'aspect créativité. Moi, en arrivant chez Blizzard, je me suis vite rendu compte que le côté très production de certaines équipes tuait complètement la créativité. Donc, c'est création d'une zone physique, un lieu où les gens peuvent être créatifs, faire en sorte d'aller à des expos, trouver les bonnes expos qui vont permettre de s'ouvrir, etc. Et d'aller chercher les budgets, encore une fois, c'était aller se dire, ah oui, si je fais ça, du coup, je peux peut-être aller décrocher un budget formation, ou si je fais ça, je vais plutôt aller chercher vers la réception qui pourra me récupérer des outils ou des choses comme ça. Et le dernier point, moi, que je traite particulièrement, c'est la cartographie des processus et l'identification des points de douleur. Un bon exemple de ce qu'on fait, nous, sur DesignOps, c'est les data reports et les KPI internes. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, en fait, les designers de l'équipe s'adaptaient à leurs clients internes. Donc, en fait, ils étaient structurés de manière différente. Et globalement, les sources de données étaient multiples. Donc, c'était... du Jira, du mail, du je t'ai croisé dans le couloir et tu m'as dit ça, du Slack, enfin tout moyen de communication, donc c'était étalé partout, donc c'était impossible de mettre une quelconque suivi de data report au départ. Première étape, ça a été de rationaliser en fait toutes les communications sur le même outil. Et ensuite, on a fait des sessions de travail avec un designer de mon équipe qui s'appelle Louis Jérôme pour commencer à voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les données qu'on avait disponibles. Et on a fait ça, je crois, j'ai noté 8 étapes. Donc, en gros, la première, c'est qu'on a écrit toutes les infos qu'on voulait voir apparaître dans l'idéal dans ce rapport, selon le message qu'on devait passer au top leadership et à nos clients internes. Donc déjà, voilà, c'est quoi notre wish list de rêve. Ensuite, on a regardé ce qui était possible avec les données qu'on avait déjà. Puis on a défini le gap entre les données qu'on avait et les données dont on avait besoin. On a aussi défini le temps de travail collaboratif parce que c'est quelque chose qu'on met pas toujours dans ces rapports-là. Il y a un truc dans Outlook qui s'appelle le rapport de données d'activité. Donc en fait, chaque semaine, on reçoit un mail avec le temps de réunion par rapport au temps où on est focus et on peut produire. Donc nous, on a utilisé ça avec des personnes de mon équipe qui étaient d'accord pour partager les données. Et donc, on s'est servi de ce temps-là qui était... on a fait une moyenne par rapport à l'ensemble des membres de l'équipe. Et ça nous a permis ensuite de venir calculer... justement, je parlais d'un FTE tout à l'heure, donc le full-time equivalent, c'est combien de temps de travail par rapport au combien de temps de travail collaboratif. Et ensuite, on a fait notre premier extract de données de l'outil, ce qui nous a permis de faire une première revue, de voir en fait la qualité des données qui ressortaient, qu'est-ce qui manquait, etc. Et ensuite, on a demandé à l'ensemble des designers, et ça, ensuite, on le faisait systématiquement tous les 3 mois à peu près. On leur demande de nettoyer les données de leurs tâches. Donc, ça va être... on identifie en fait toutes les tâches en fait qui ont des données qui sont pas complètes. Et c'est assez rapide, hein. On dirait que c'est hyper complexe, mais c'est quand même assez rapide de pouvoir surligner finalement, voilà, ces tâches-là, il manque le temps que tu as passé dessus, ou il manque la date de fin, ou je voulais, voilà. Donc, on leur fait compléter ça, et c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, ben, s'en est suivi un énorme travail, finalement, pour corréler les données brutes et extraire des informations nécessaires. Donc, comment on arrive à aboutir avec un nombre de FTE, encore je prends cet exemple-là parce qu'il est très parlant, comment on arrive à dire le nombre de personnes nécessaires pour travailler sur un sujet par rapport à une tâche, par rapport à un client. Donc par exemple, nous on a plusieurs, vu qu'on a plusieurs franchises, c'est combien de personnes ont été nécessaires pendant tel trimestre pour travailler sur la franchise Overwatch ou la franchise World of Warcraft, etc. Donc une fois qu'on a réussi à faire ça, bon, on a le plus long, on en a fait un PDF, un très beau PDF dans Photoshop. Ça a demandé beaucoup de temps pour arriver à quelque chose qui nous convenait vraiment. Et puis on l'a présenté, on a partagé avec nos clients internes et avec le top leadership. Et depuis l'été dernier, on essaye de trouver des solutions pour automatiser la solution. Donc avec un de nos développeurs qui s'appelle Sanremi. Et l'idée, c'est de dire comment est-ce que on peut facilement automatiser le fait de récupérer les données dans cet outil et de les extraire de manière à avoir un PDF super super propre et super compréhensible sans avoir besoin d'une intervention de on va dire de 1 ou 2 jours par un designer, quoi. Au niveau du reporting, la façon dont on le communique, donc on en fait un PDF de manière très simple. On a beaucoup travaillé justement sur la représentation de ce PDF pour qu'il soit très clair, avec des graphiques, quel type de représentation, etc. Est-ce qu'on fait des camemberts, qu'est-ce qu'on écrit comme mots, pour que ce soit compréhensible à la fois par le top leadership, mais aussi par des designers. Donc voilà. Et ensuite, ce document, à la fois on le présente en réunion, donc on fait des réunions où on présente le rapport, où on répond aux questions, où on échange. Et ensuite, on le partage par mail.
Quels sont les obstacles dans la mise en place des pratiques Design Ops ? Et comment prouver la valeur de cette approche ?
Le premier obstacle, c'est qu'au début, j'ai attendu qu'on me donne des ressources pour pouvoir travailler sur ces sujets. Mais en fait, j'ai vite compris que ça n'arriverait pas pour des raisons qui sont très logiques et pertinentes. C'est que ce type de travail n'est pas tourné vers un apport direct de revenus pour la structure et les équipes. Vu que je n'avais pas encore les données qui me permettaient de prouver l'utilité de l'impact business, il fallait que je trouve une autre solution.
Johanna conclut son témoignage en abordant la difficulté rencontrée dans son projet de reporting. Comment obtenir et maintenir la qualité des données ?
Je dirais que la plus grande difficulté, ça a été de se dire, par rapport à notre liste parfaite de tout ce qu'on voulait obtenir, qu'il y ait certaines choses qui allaient demander trop de travail de la part de nos designers au quotidien pour pouvoir maintenir la qualité des données et donc afin de pouvoir avoir les données sortantes. Et ça, pour avoir déjà essayé dans différentes équipes de faire en sorte de leur faire coller à un process qui n'a pas d'apport direct sur le design, qui n'a pas d'apport direct sur leur métier, c'est pas tenable sur la durée, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des relances tous les mois ou « Ah, vous avez bien pensé à faire ci, vous avez bien pensé à faire ça », ce qui est désagréable pour tout le monde. Donc nous, on a préféré se concentrer sur, enfin trouver le bon équilibre des données, du niveau de données qui était possible facilement de nous fournir par les designers et de voir tout ce qu'on pouvait entrer. Donc je crois qu'il y a une ou deux choses qu'on a retirées, par exemple. On voulait absolument avoir les données du temps passé en moyenne par rapport à une certaine typologie de tâches. Et en fait, cette donnée-là particulièrement, elle était compliquée à obtenir parce qu'il fallait systématiquement que les designers pensent bien à glisser leurs tâches dès qu'ils démarraient dans la colonne in progress. Et dès qu'ils ont terminé, de bien bouger la tâche dans la bonne colonne, etc. Ça semble un détail, mais quand on est sur plusieurs choses en même temps, voilà, des fois, en fait, leur tâche est bougée, puis il y a un retour client, donc ils la rebougent, puis là, ils oublient de la remettre, ou des fois, enfin voilà, il y a une complexité qui était par rapport au au fonctionnement de mon équipe, je savais que c'était pas possible de mettre ça en place. En tout cas, pas suffisamment pour avoir des données qui étaient d'une qualité parfaite. Je pense qu'on aurait pu atteindre 80% de qualité de données, mais s'il y a 20% d'erreurs, ça aurait vraiment faussé complètement tout le rapport. Donc, on a préféré ne pas mettre cette donnée-là. Déjà, la transparence qu'on a apportée grâce à ce rapport, ça a permis de faire des échanges, on va dire, éclairés avec nos stakeholders et nos clients sur plusieurs thématiques. Par exemple, pour le top leadership, on peut facilement ensuite mettre en parallèle la répartition des demandes de nos clients internes par rapport à la stratégie globale d'effort par franchise. C'est hyper important parce que ça permet vraiment de dire la stratégie, c'est de passer X% de temps sur tel produit et nous, nos clients internes nous ont demandé de passer X% de temps sur ce produit-là. S'il y a une cohérence, donc c'est bon. S'il y a un manque de cohérence, il faut réajuster le travail avec les différents clients internes. On a aussi utilisé ce rapport pour mettre en avant les demandes avec le plus de friction. Très clairement, en fait, on va avoir des demandes qui vont normalement prendre, qui sont estimées à 2 heures de temps de travail, 2 heures ou 4 heures, peu importe. Et puis, on va voir qu'on a un nombre de commentaires ou un nombre d'échanges qui va être 30, 40 échanges sur une demande qui est quelque chose de très court. Donc ça va nous permettre d'identifier qui sont sur quelle tâche, mais aussi des fois ça va être avec quel client, des fois ça peut être des clients récurrents, enfin des clients récurrents au sens on sait que des fois entre deux personnes la compréhension se fait pas très bien, donc ça permet aussi de mettre en avant ça. Donc ça peut être le bris entre ces deux personnes, la communication est difficile parce qu'on est dans du multiculturel, donc des fois il peut y avoir entre avec la différence de langue, etc., on peut avoir aussi des manques, des incompréhensions. Et donc, ça nous permettait de mettre en avant ces demandes qui créent le plus de friction et d'essayer de résoudre le nombre d'allers-retours qu'on va avoir sur des demandes qui sont pourtant simples. Et au niveau de la mesure des résultats, dans mon cas, c'est en mesurant si l'évolution de la répartition des efforts de design par client, par franchise, est cohérente par rapport à la stratégie globale et de voir cette évolution avec le temps. Et le deuxième, c'est de voir si le nombre de tâches avec des frictions se réduit.
Chapitre 3. Regard vers le futur. Avant de regarder vers le futur, nous avons demandé à nos invités leur avis sur la maturité actuelle de cette pratique.
Alors non, c'est assez peu mature en France, hein, et la preuve en est. On est en train de faire un podcast parce qu'il y a de la méconnaissance au sein même de notre communauté de design. Donc la première phase vraiment, c'est l'acculturation. Et puis, comme on est en train de le faire à notre échelle aujourd'hui, la première phase, elle va être très expérimentale. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. On va tester des choses, on va probablement faire des erreurs, mais qui nous permettront d'optimiser notre méthode. Et j'espère que dans quelques années, on aura effectivement plus de littérature et de partage sur cette pratique-là. Mais c'est vrai qu'on rencontre pas mal de difficultés. Hein. On en a un petit peu parlé, ça touche à d'autres métiers, comme les RH. C'est des pratiques qui demandent aussi beaucoup d'investissement et pas que pour la personne qui va mettre en place ces choses-là, mais pour toutes les personnes qui vont aussi travailler au sein d'une équipe.
Alors, au niveau de la maturité de la pratique DesignOps en France, est-ce que le design est mature en France? Sans même aller jusqu'au DesignOps, est-ce que le design est mature en France? Selon moi, non. Pour se refocaliser sur le DesignOps à proprement parler, alors j'ai fait une petite enquête sur LinkedIn en vue de cet épisode. Alors, il y a 1900 personnes dans le monde sur LinkedIn qui ont DesignOps dans leur intitulé de poste. Il y en a 68 qui sont en France pour 464 aux USA. Donc, les 68 qui sont en France, grosso modo, ça représente 3,5% des 1900 DesignOps qu'il y a dans le monde. Donc, clairement, on peut conclure que la pratique est très loin d'être mature. Si tant est qu'elle soit réellement connue des acteurs du numérique et même des designers, qui bien qu'étant les premiers concernés, sont peu à connaître la discipline. Donc non, pour moi, on n'est clairement pas encore mature. Donc il y a les grands groupes qui commencent de plus en plus à s'y intéresser. Alors ils ont le parallèle est assez simple parce qu'ils ont constaté les apports du Scrum Master. Donc c'est plus facile pour eux de passer le pas vers un Design Ops, donc une ressource qui ne produit pas directement, mais sur laquelle il faut investir. Les startups ont le mindset à défaut d'avoir un rôle dédié. Alors après, entre les grands comptes et les startups, je pense que ça doit être assez marginal la pratique du Design Ops. Et pour poursuivre sur la maturité, il faut s'intéresser aussi à ce que ça nécessite pour les entreprises, parce qu'en effet, il faut être prêt et il faut avoir les moyens d'investir sur une ressource qui ne produit pas. Et puis au niveau des équipes, il faut avoir quand même la capacité à prendre du recul sur soi-même et son écosystème, à sortir de ce que j'appelle le syndrome du hamster. Parce que souvent, tu vois des gens, ça va pas, on a trop de charges ou ça fonctionne mal. Mais étrangement, les gens ont une difficulté à sortir de cette roue du hamster et de se dire, hey, ça va pas, ok, on s'intéresse à pourquoi ça ne va pas et on essaie de résoudre la cause. Donc voilà, il faut avoir cette capacité-là et puis il faut être apte à solliciter l'aide de quelqu'un également.
Je pense pas que la pratique soit mature en France. J'ai d'ailleurs entendu dire que les designers étaient souvent tenus à l'écart de ces postes au profit de personnes venant d'écoles de commerce. Qui, attention, je suis ironique, savent, eux, gérer ces sujets mieux que les designers. Mais c'est très français, en fait. Hein. Les designers, comme les développeurs, sont souvent mis dans des petites cases production et peinent à s'en extraire pour des raisons qui sont purement des biais inconscients. Soit tu sais produire, soit tu sais parler business et optimisation de production. Tu peux pas savoir faire les deux. En France, il y a vraiment un gros biais là-dessus. Donc non, on n'est pas mature et je pense principalement à cause de ça, déjà.
Nous avons vu que les pratiques Design Ops aident les équipes à s'organiser et à gagner en efficacité. Si nos invités convergent sur les grandes lignes, le futur ne se dessine pas de la même façon.
J'imagine ou j'espère, je ne sais pas exactement lequel des deux, que ça va continuer à se développer et s'officialiser dans les structures, de plus en plus de structures en France. Et en Europe, même dans le monde entier, hein, c'est très bien. Je pense que ça va continuer à se développer. Alors, je ne sais pas si je pense ou si j'espère que ça va continuer à se développer, à s'officialiser dans les structures. C'est en tout cas un vrai besoin couvert principalement aujourd'hui par les managers ou les design leads quand c'est non officiel et quand c'est traité, en fait. Parce que sinon, ça peut être complètement passé aux oubliettes. Et je pense que ça, c'est un sacré problème que ce soit pas traité. Parce que derrière ça, c'est un peu comme en management, quand tu commences à manager, tu as la pratique du management, mais tu as aussi les outils du management. Il y a des choses qu'il faut faire, ne pas faire, prendre du temps pour tes équipes toutes les semaines, etc. Donc, il y a des sortes de guidelines. Design Ops, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu n'inclus pas ça dedans, si tu n'inclus pas ça dans ton équipe de design, que tu appelles Design Ops, que tu l'appelles Design Ops ou pas, que tu prennes toutes les briques, que tu prennes une ou deux, si tu ne l'inclus pas, c'est comme pour un manager qui dirait je ne m'occuperai pas de prendre une heure par semaine avec chaque membre de mon équipe. Ou je ne ferai pas les revues annuelles de performance. Pour moi, c'est aussi incohérent que ça, en fait.
Dans les années à venir, c'est une pratique qui, je l'espère, va se démocratiser, hein, inévitablement. On a des métiers qui sont en pleine mutation. On est passé d'une décennie, même un peu plus, où la pratique UX, elle était assez méconnue, assez vague, elle était peu palpable, en fait, et constamment, on expliquait notre métier, on devait le justifier. Pour que ce soit mis en place au sein des organisations, des entreprises, des projets, même en tant qu'agent, on avait le besoin de se justifier. Et on est passé finalement à une nouvelle ère, je l'espère, et c'est comme ça que je le vois au sein de mon microcosme, où nos méthodes, elles ne sont plus approuvées. La majorité des entreprises connaissent l'utilité de notre démarche et du coup, pour moi, c'est un petit peu la même trajectoire du Design Ops. On est encore dans cette phase d'évangélisation, on a besoin d'expliquer ce que c'est. Et forcément, dans quelques temps, ça sera un petit peu plus connu et on n'aura plus besoin de se justifier. Ça va aussi passer par évidemment des cases et des gens qui partagent comme on le fait aujourd'hui sur la pratique et qui parlent assez, je pense, hein, qu'il faut être assez transparent sur les difficultés qu'on peut rencontrer, les obstacles qu'on peut vivre au sein de ces pratiques-là et forcément permettre à tout le monde de s'améliorer. En ayant en tête les bénéfices et la plus-value de la pratique, je pense que demain, les designers sont plus à même aussi de s'ouvrir et de passer du temps sur la démarche et du coup, devenir plus professionnel. Moi, la question que je me pose quand même, et aujourd'hui, j'ai malheureusement pas la réponse, hein, mais j'espère qu'on aura des éléments de réponse au fur et à mesure que ça se démocratisera.
Émilie s'interroge sur la pertinence de tout encadrer, au détriment de la créativité. Tandis que Valentin approche ses enjeux à des pratiques telles que Scrum, dans une démarche technicienne et collective.
Notre objectif, quand on met en place ces pratiques-là, c'est de professionnaliser la pratique du design. Et donc, on gagne en vélocité, on rationalise les actions. Moi, je me demande si c'est vraiment raisonnable, en fait, et pertinent, de cadrer autant une pratique comme la nôtre, qui fait par ailleurs aussi appel à la créativité. Est-ce qu'on ne risque pas d'enfermer des designers dans un cadre qui deviendrait trop strict et qui les empêcherait de sortir du cadre et d'être en rupture demain? Alors moi, c'est vraiment une question que je me pose et la crainte que j'ai. Et voilà, je pense qu'il faut rester très vigilant aussi sur ces aspects-là.
Ce dont on peut être certain, c'est que la discipline va fondamentalement évoluer et s'adapter. Le contexte, la structure des sociétés va s'amplifier, va évoluer. Et le pourquoi, les points saillants évoqués précédemment ne vont faire qu'accroître. Il y aura de plus en plus besoin, selon moi, de fonctions telles que Scrum Master, Design Ops ou Coach pour organiser, faciliter, structurer, qui plus est que la démocratisation évidente du télétravail, qui va de pair avec l'exacerbation du dilemme confort personnel versus force du groupe. Pour l'avenir, on peut également imaginer qu'il y aura une répartition des rôles et de la segmentation des périmètres du Head of Design et du Design Ops qui sera de plus en plus marquée. Je pense que à court terme, le Head of Design va vraiment se consacrer au quoi et le Design Ops va vraiment se consacrer quant à lui au comment on fait les choses. Alors, Design Ops a commencé avec une démarche. Aujourd'hui, on est sur un rôle et il y a fort à parier. D'ailleurs, c'est ce qui commence déjà chez certaines entreprises, c'est qu'on aura des équipes entières de Design Ops. Alors après, la question qu'on peut se poser et qui fait débat, c'est est-ce que Design Ops nécessite une personne dédiée? Pour moi, clairement, oui. C'est comme un Scrum Master. Enfin, clairement, quand tu observes dans les sociétés, quand tu as un Scrum Master dédié et un Scrum Master en part-time, je dirais, t'as pas du tout les mêmes résultats parce que le Scrum Master dédié, aussi vrai que le Design Ops dédié, a du temps. Il a le temps de se pencher réellement sur les choses, de chercher des solutions. Et puis, le fait d'avoir une personne dédiée, ça veut dire qu'il n'a pas de conflit d'intérêt. Donc, à aucun moment, il va privilégier son confort individuel par rapport à l'intérêt du collectif. Et puis, le fait d'avoir une ressource dédiée, je vais prendre la citation de Jean-Pierre Lambert, qui est un Scrum Master qui fait une série assez intéressante sur YouTube que je vous invite à visionner, qui s'appelle Scrum Life. Donc son propos, c'est le temps du Scrum Master est fait pour être gâché, contrairement à celui de l'équipe. Et je trouve cette formule géniale. Donc moi, je dirais que le temps du Design Ops est fait pour aider l'équipe à s'aider. Le Design Ops, clairement, c'est un facilitateur, un servant leader, un peu comme le Scrum Master, mais à vocation design.
Finalement, quand les process sont pertinents, ils ne sont pas enfermants. Et tout l'enjeu de Design Ops, c'est de trouver aussi des process qui vont être pertinents et en adéquation avec nos métiers, nos pratiques et nos façons de faire. Logiquement, ça ne devrait pas enfermer. Ce que je constate quand même, c'est que et on le voit, hein, j'imagine, on a tous des exemples de collègues, de gens avec qui on a pu collaborer, qui ont tous des personnalités différentes. Hein. Il y a une énorme variabilité entre les individus. Et donc, peut-être que ce schéma-là ne correspond pas à tout le monde. Voilà. Je pense à des profils très, très artistes, un peu rupturistes, assez fantaisistes, qui vont, je trouve, apporter plein de belles choses à travers des idées. Il faut veiller à pas enfermer ses talents et ses personnalités dans des process trop stricts, je pense. Il suffit de leur donner les clés pour travailler efficacement, mais sans les enfermer. Donc c'est un juste milieu à trouver et encore une fois, on est dans l'expérimentation.